Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La France rapatrie une douzaine d'enfants de djihadistes retenus en Syrie. C'est désormais à la justice de décider de confier ou non ces enfants à des proches. Les explications d'Antoine Marette dans un instant. Nouveau massacre intercommunautaire au Mali. Une centaine de morts la nuit dernière dans un village d'Ogon. Il pourrait s'agir de représailles menées par des Peuls. La correspondance de Marie Matigo. En Italie, le maire de Riace, qui avait accueilli des centaines de migrants dans sa commune, sera jugé demain pour aide à l'immigration illégale. Nous en parlerons avec notre invité, le politologue italien Massimiliano Panarari. En France, l'intersyndicale de l'aide aux personnes âgées demande au gouvernement une grande loi sur la dépendance. Une urgence face au risque de maltraitance dans les EHPAD. Dossier suivi par Steven Goyer. C'est la fameuse doctrine française du cas par cas face aux djihadistes français emprisonnés en Syrie. Pas question de faire revenir tout le monde, mais il y a parfois des situations d'urgence humanitaire. Paris a ainsi rapatrié ce week-end 12 enfants de djihadistes français, dont 10 orphelins. Ils étaient retenus dans des camps au Kurdistan syrien dans des conditions très difficiles. En mars dernier, 6 autres enfants, dont 5 orphelins, avaient déjà bénéficié d'un rapatriement. Alors comment sont-ils pris en charge à leur retour ? Élément de réponse avec vous, Antoine Marette.
Dès leur retour en France, ces enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont des traumatisés de guerre et sont donc pris en charge de façon sanitaire, médicale et psychologique en dehors de leur famille d'origine. Ils sont placés dans des familles d'accueil spécialement formées ou dans des foyers avec des éducateurs spécialisés. Pendant ce temps, le juge des enfants diligente une enquête sur les personnes qui, dans leur famille restante, seraient susceptibles de les accueillir, grands-parents, tantes ou encore oncles. Maître Marie Dosé est l'avocat des familles françaises dont les enfants sont au Kurdistan syrien.
Dès que ces enfants rentrent en France, on doit les protéger de leur histoire. Ces enfants sont d'abord des enfants qui doivent un jour ou l'autre retrouver une vie normale, aller à l'école et se fondre dans l'anonymat de l'enfance parce que c'est ce qu'il y a de plus beau. Donc ce qu'il faut lorsqu'ils rentrent, c'est les laisser tranquilles. On va déjà devoir un jour ou l'autre leur expliquer ce qui leur est arrivé et donc l'important c'est de les préserver de cette histoire.
Il reste encore 200 enfants français en Syrie. La France a choisi de les rapatrier au cas par cas. Une troisième vague de retour devrait avoir lieu prochainement.
Antoine Marette, merci. Le domicile de Latifah Ibn Ziaten, la mère de l'une des victimes de Mohamed Merah, a été tagué la nuit dernière avec des inscriptions pro-Merah. Une nouvelle fois, je suis prise pour cible. Demain, ce sera peut-être des balles, a déclaré Latifah Ibn Ziaten à l'AFP. Elle a déposé plainte et ce soir, Emmanuel Macron lui témoigne son soutien sur Twitter. Les auteurs de ces actes odieux seront punis, a écrit le président. Au Mali, les massacres succèdent aux massacres dans un pays miné par les groupes djihadistes. 95 morts et 19 disparus, c'est le bilan provisoire de la tuerie perpétrée la nuit dernière dans un village d'Ogon, Sobankou, situé dans le centre du pays. Un village ravagé par les assaillants sur fond de rivalités intercommunautaires entre éleveurs Peuls et chasseurs d'Ogon. La correspondance de Marie Matigo.
C'est horrible, a lâché au téléphone le maire de la commune de Sanga, où se trouve le village attaqué. Il décrit un village quasi entièrement brûlé, de nombreux corps sont calcinés, difficilement identifiables. Certains ont même été totalement réduits en cendres. Le village d'Ogon de Sobankou a été encerclé hier vers 17h, puis les assaillants ont mis le feu aux cases. Ils ont abattu les habitants qui essayaient de s'enfuir. Les forces de sécurité maliennes, elles, ne sont arrivées sur les lieux que ce matin. Difficile de connaître pour l'instant l'identité des assaillants. Selon le maire, des survivants affirment qu'ils parlent Peuls. Dans le centre du Mali, les Peuls et les Dogon notamment se sont organisés en groupes d'autodéfense dans une zone où la menace djihadiste est aussi présente. Les conflits intercommunautaires et les nombreuses représailles ont fait plus de 250 morts civiles depuis le début de l'année selon la MINUSMA. Ainsi, le 23 mars dernier, c'était le village Peul d'Ogosagou qui avait été attaqué par des chasseurs Dogon. Attaque qui avait fait près de 160 morts. C'est la pire tuerie depuis la crise de 2012 au Mali.
Marie Matigo, correspondante au Sahel. Au Brésil, la polémique sur l'incarcération de l'ex-président Lula rebondit. Le site d'investigation The Intercept remet en cause l'impartialité de l'opération Lavage à taux, Lavage Express en français. Cette vaste opération anticorruption de la justice brésilienne avait débouché sur la condamnation de Lula. Résultat, il n'avait pas pu se présenter à la présidentielle présidentielle l'an dernier, un scrutin remporté haut la main par le populiste Jair Bolsonaro. Selon The Intercept, les responsables de Lavage à taux auraient manœuvré en coulisses pour empêcher le retour de Lula. Jean-Mathieu Albertini nous appelle de Rio.
Les révélations publiées dimanche soir par The Intercept secouent une nouvelle fois un pays qui va de scandale en scandale. Les conversations qui ont eu lieu sur les applications WhatsApp et Telegram révèlent que le juge Sergio Moro, responsable de la condamnation de l'ex-président Lula et aujourd'hui ministre de la Justice du gouvernement Bolsonaro, a entre autres conseillé le procureur en charge de l'affaire pour monter son acte d'accusation. D'autres conversations montrent qu'en pleine campagne présidentielle, des procureurs se sont organisés pour empêcher un interview de Lula, alors en prison, par crainte qu'il ne puisse aider à faire élire son successeur. Pour les critiques de l'opération Lavage à taux, les révélations sont la preuve de la persécution dont a été victime l'ex-président Lula pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle en 2018. Beaucoup appellent déjà des sanctions contre les procureurs et Sergio Moro et attendent de nouveaux scoops du journal qui assure disposer de nombreux documents compromettants. Les procureurs et l'ancien juge ont tous réagi dénonçant des fuites criminelles dues à des hackers et nient toute irrégularité. Les trois fils du président Bolsonaro se sont aussi exprimés pour défendre l'un des deux ministres indispensables du gouvernement. Mais les révélations restent explosives. Elles portent un sérieux coup à la réputation de l'opération Lavage à taux. Et même si les chances sont minimes, elles donnent un nouveau souffle à la défense de Lula qui devrait essayer de faire annuler la condamnation.
Jean-Mathieu Albertini, correspondant au Brésil. Il était le symbole d'une Italie ouverte aux migrants. Mimmo Lucarno, l'ancien maire de Riace en Calabre, comparé demain devant la justice italienne pour aide présumée à l'immigration clandestine. Mimmo Lucarno avait accueilli dans sa petite commune d'environ 2000 habitants plusieurs centaines de demandeurs d'asile, mais il a perdu la mairie le 26 mai dernier, battu par une coalition de droite soutenue par le chef de la Ligue Matteo Salvini, et la plupart des migrants ont désormais quitté Riace. Invité de ce journal, le politologue italien Massimiliano Panarari, professeur à l'université Louis de Rome, bonsoir.
Bonsoir, messieurs, bonsoir à tous.
Massimiliano Panarari, que reste-t-il de Riace, terre d'accueil pour les migrants aujourd'hui?
Riace a représenté une expérience extrêmement importante du point de vue symbolique pour la gauche et pour les progressistes italiens. Mais à ce moment-là, on pourrait dire qu'elle est devenue aussi le symbole de la revanche de la droite, du centre-droite et surtout de l'idée des politiques migratoires de la Ligue de Matteo Salvini, le vice-président du Conseil.
Justement, est-ce que cette politique d'accueil très généreuse du maire de Riace n'a pas finalement favorisé la montée de la Ligue de Matteo Salvini?
On pourrait dire que par rapport à une certaine part de l'opinion publique, les politiques d'accueil généreuses constituent un cible absolument parfait, entre guillemets, pour contester les politiques migratoires. Et on pourrait dire que la Ligue, l'augmentation le consensus de la Ligue est véritablement lié aux politiques migratoires. Et ça représente la raison principale pour laquelle la plupart des Italiens qui se sont déclarés à faveur de la Ligue ont voté pour Matteo Salvini.
Oui, parce que la politique de fermeté de Matteo Salvini semble très populaire. Cela signifie que les Italiens sont aujourd'hui majoritairement hostiles aux migrants?
On ne peut pas dire que les Italiens sont devenus majoritairement de racistes, tout à fait. Mais l'impression de la plupart des Italiens qui se sont déclarés à faveur de Matteo Salvini, c'est l'exigence d'une forme de répression par rapport à l'immigration clandestine, ou plus en général, une sorte de volonté dans les politiques des lois et ordres. Et les reproches aux politiques du centre-gauche des gouvernements précédents, c'est justement ça. C'est-à-dire l'idée de ne pas avoir appliqué avec dureté les lois et d'avoir toléré trop de comportements qui étaient hors de loi.
Et les Italiens se sont sentis aussi un peu abandonnés par les autres pays européens?
Ça, c'est l'autre raison principale qui a augmenté le consensus de Matteo Salvini. C'est-à-dire l'impression que l'Italie est restée toute seule face au défi de migration, face aux crises du Nord d'Afrique.
Et ça explique aussi ces tensions aujourd'hui entre la France et l'Italie sur la question migratoire?
Voilà. Et la France est considérée les boucs émissaires d'un côté et les cibles parfaites de l'autre de cette situation d'abandon et d'isolement de l'Italie par rapport aux gestions migratoires. Salvini peut facilement soutenir que la France bloque et ferme ses frontières à Vintimille surtout, et que les problèmes restent en charge de l'Italie. Alors que le président Macron demande à l'Italie d'avoir plus de solidarité, plus de tolérance et plus de capacité d'accueil. Donc, comme vous voyez, il s'agit vraiment d'une question qui a été transformée dans une dimension tout à fait symbolique et du point de vue politique qui explique la plupart des résultats extraordinaires du point de vue des consensus de la Ligue, surtout par rapport aux dernières élections locales et par rapport aux élections européennes.
Massimiliano Panarari, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. La Ligue de Matteo Salvini qui a poursuivi sa progression électorale hier lors de municipales partielles. Elle a pris à la gauche deux importants bastions, Ferrare en Émilie-Romagne et le port industriel et ouvrier de Piombino en Toscane. Dans certaines entreprises, le lundi de Pentecôte coïncide avec la journée de solidarité. On travaille pour financer la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Eh bien, pour l'intersyndicale du secteur de la dépendance, il faut aller beaucoup plus loin. Elle réclame au gouvernement une grande loi pour améliorer l'accueil dans les EHPAD et la formation des personnels. Une manifestation nationale est d'ailleurs prévue le 1er juillet prochain devant le ministère de la Santé. Le reportage de Steven Goyer.
La prise en charge des soins pour les personnes âgées ferait aujourd'hui courir le risque de la maltraitance. C'est en tout cas le message passé par les soignants lors notamment de la grève déclenchée à l'hiver 2018. Depuis, rien de nouveau, estiment les personnels d'EHPAD, comme ceux qui assurent les soins à domicile.
Ras-le-bol, secteur sinistré. Nous, on dit c'est la misère qui gère la misère. Des filles qui gagnent 3 francs 6 sous, qui vont prendre soin de gens qui sont vulnérables. Et là, c'est plus possible, quoi.
Estelle Pain est représentante de la branche accompagnement et soins à domicile pour la CGT. Elle estime que les conditions de travail sont devenues invivables.
Depuis 2014, nos salaires n'ont pas été revalorisés. Depuis 2008, nos indemnités kilométriques non plus. Avec des demi-heures d'intervention, hein, parce qu'il faut savoir que c'est souvent une demi-heure pour lever et donner le petit déjeuner à la personne. Hein, donc voilà. Et ça, ça peut être une dizaine de fois dans la matinée. C'est des journées en rallonge qui ne se finissent pas. Et surtout que les temps de déplacement sont peu pris en compte. On est des magiciennes, on se téléporte, quoi.
Le rapport Libault, transmis à la ministre de la Santé en vue du projet de loi, a pourtant été salué dans ses principes par les organisations syndicales, mais reste un manque d'investissement concret dans le recrutement des effectifs supplémentaires, notamment pour l'aide à domicile. Patrick Chanvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées.
Il n'y a pas de proposition concrète. Donc ce que nous demandons, c'est que l'on crée dès l'année 2019 deux postes supplémentaires dans chaque établissement, dans chaque service à domicile. Et puis ensuite, le président de la République a annoncé une grande loi qui serait applicable en 2020 ou 2021. Nous verrons. Mais nous ne pouvons pas attendre 2021. Il faut des actes concrets dès maintenant.
Une mesure estimée à près d'1,5 milliard d'euros par les organisations présentes dans l'intersyndicale.
Dans l'actualité politique, les Républicains tiendront demain leur premier bureau politique depuis la démission de Laurent Wauquiez et le départ de Valérie Pécresse, avec une priorité pour LR, trouver un nouveau chef pour relancer le parti laminé par l'échec de la liste Bellamy aux européennes. Élodie Forêt, un nom commence à circuler avec insistance, celui de Christian Jacob.
Christian Jacob, chef de file des LR à l'Assemblée, pourrait bien plier le match de la succession à la tête du parti. Depuis quelques jours, cet ancien chiracien à la loyauté sans faille engrange les soutiens du sarkozyste Brice Hortefeux au député Aurélien Pradier. Tous vantent sa solidité, son expérience, sa capacité aussi à faire consensus, le seul à pouvoir stabiliser le navire, selon la secrétaire générale Annie Genevard. Peu d'obstacles donc à cette candidature. Dans l'autre palais, celui du Luxembourg, Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, n'a certes pas encore pris de décision officielle, mais il ne se présente n'entrera jamais face à Christian Jacob, nous assure son entourage. Les deux hommes qui se sont laissés une dizaine de jours pour consulter, réfléchir, on en profite surtout pour faire pression, explique un proche de Bruno Retailleau, pour qu'une véritable révolution ait lieu au sein du parti. Mais pour cet autre potentiel candidat à la présidence, Jacob est malheureusement le candidat des barons qui veulent au contraire que rien ne bouge jusqu'au municipal. Et après, ironise un observateur, ils attendent le vrai messie qui pourrait sauver la droite. droite. Et là, un nom circule, celui de François Baroin.
Élodie Forêt. La météo demain restera fraîche et perturbée sur la majeure partie du pays. Les pluies concerneront presque toutes les régions. Seul le littoral méditerranéen devrait échapper à ce mauvais temps. Température minimale de 6 à 18 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 15 à 20 degrés en général jusqu'à 28 degrés dans le sud-est. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.